la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
La fragilité n'est pas seulement un état, c'est une vérité qui traverse tout ce que nous construisons. Les institutions les plus solides peuvent vaciller, les structures sur lesquelles nous comptons peuvent se fissurer et les esprits les plus résilients peuvent flancher. Et pourtant, c'est précisément dans cette faille que se révèle ce qui nous rend humains. Une invitation à regarder de plus près ce qui tient, ce qui craque et ce qui nous permet de continuer. Comme l'écrivait Simone Veil, la fragilité est une vérité qui ne peut être ignorée, elle est la mesure de notre responsabilité. Et ce soir, dans la matinale de 19h, il ne s'agit évidemment pas de chercher des réponses toutes faites, mais de sentir que ce soit la prise en otage du président vénézuélien Maduro par l'administration trumpo-étésinienne, l'histoire d'un imaginaire qui se crée dans l'épreuve de la schizophrénie, ou encore la résilience qui pousse à tenir debout les étudiants en sciences infirmières. Voici tout ce que peut révéler nos fragilités en tant que société. Et ce soir, c'est moi, Farah, qui anime cette joyeuse émission. Avec nous ce soir dans la matinale de 19h pour la grande interview, Quentin Guéot, doctorant sur le droit des opérations militaires dans l'espace, au micro de Jeanne. On enchaîne ensuite avec le Zoom, notre interview culture. Ce soir, nous recevons la comédienne, autrice et metteuse en scène Tatiana Razafindrakoto, qui vient nous faire connaître le spectacle Les Voix de l'Armoire, mis en scène par ses soins. Enfin, Thierry nous fera un point sur l'actualité du jour avec le Flash Info. Paul Augustin nous réserve une chronique pour le moins alarmante à propos de l'enseignement des sciences infirmières. Et enfin, on termine l'émission avec la chronique de Violette.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Il est 19h03 et vous êtes sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Et avec nous ce soir, Quentin Guéot, doctorant sur le droit, comme je disais, des opérations militaires. Bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est au micro de Jeanne. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Quentin d'être venu. Donc, comme vous le savez, le 3 janvier dernier, les États-Unis ont mené une opération militaire au Venezuela. À l'issue de cette opération, le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé puis transféré aux États-Unis, où il a depuis comparu devant une juridiction fédérale. Mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de ce qui s'est passé du point de vue du droit international, car même si j'ai fait une petite recherche, vous êtes spécialisé en droit spatial, vous avez suivi une formation vache très très solide sur le droit international, et nous voulions votre avis sur la situation. Donc, allez-y. Bien sûr, enfin, sauf si...
Bienvenue.
Je peux commencer. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour parler de ce sujet qui est un sujet hyper intéressant et hyper rare en droit international. C'est pas tous les matins qu'on kidnappe un chef d'État parce qu'on a beau, peu importe ce qu'on pense de la situation interne au Venezuela et la légitimité du président, enfin de l'ancien président vénézuélien, ça reste un chef d'État, mine de rien, en termes de droit international, et on ne kidnappe pas un président. Ça ne se fait pas et l'administration Trump finalement nous surprend un peu tous les jours de ce qu'elle est capable de faire en termes de droit international, ou plutôt dans son ignorance du droit international.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un trou juridique justement qui permet, qui laisse un petit peu une zone grise sur est-ce que c'est légal ou pas au niveau du droit international ?
Non, pas du tout.
Il n'y a pas de zone grise.
Absolument aucun trou et l'administration Trump ne peut pas se prévaloir justement d'un droit un peu flou ou inexistant, ce qui n'est pas le cas en droit spatial, donc ma spécialité aujourd'hui. Là, il y a quelques règles qui ne sont pas vraiment claires. En droit international, c'est très clair. Le principe ici, c'est le principe de non-intervention dans les affaires internes des autres États. Donc, ça veut dire qu'un État ne peut absolument pas intervenir dans les affaires internes des autres États. C'est la Charte des Nations Unies qui est le texte fondateur du droit international contemporain, qui a été mis en place en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Et justement, on a mis en place ce texte pour éviter une nouvelle guerre mondiale.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je rebondais sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut rapprocher cet enlèvement d'une violation du recours à la force qui est mentionné dans cette charte, si je ne fais pas d'erreur ?
Alors, c'est une question qui est éminemment complexe, parce que le recours à la force est à la fois très encadré et à la fois un peu flou. sur quand est-ce qu'on a une agression armée, quand est-ce qu'on a un recours à la force armée. En tout cas, on a une violation de l'intégrité territoriale du Venezuela. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun flou juridique. C'est-à-dire que, alors, en plus, c'était une opération militaire, donc on pourrait même effectivement qualifier cette opération d'agression armée envers le Venezuela. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on a un soldat états-unien qui pose le pied sur le territoire du Venezuela sans le consentement du Venezuela, on a une violation de l'intégrité territoriale du Venezuela et donc de la Charte des Nations Unies.
Mais est-ce que justement les États-Unis ne pourraient pas invoquer une exception comme la légitime défense ou la protection de leurs ressortissants pour justifier ce qu'ils ont fait, même s'ils avaient justifié que le président Maduro était au cœur d'un narcotrafic ?
Alors, par rapport à la légitime défense, donc c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, la Charte des Nations Unies, elle interdit le recours à la force et la violation de l'intégrité territoriale des États et l'ingérence dans les affaires internes des États. Il y a deux exceptions à cela. Soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui peut, donc c'est une sorte de police du monde, qui peut déterminer quand il y a un danger pour la paix et la sécurité internationale d'intervenir. Donc, ça peut être soit intervenir économiquement, en mettant en place des sanctions internationales, par exemple, ou intervenir militairement, si jamais les sanctions économiques ne suffisent pas. Ce Conseil de sécurité, aujourd'hui, il est totalement paralysé. Il y a 15 membres, 10 membres qui sont changeants, et 5 membres permanents. Les 5 membres permanents, c'est la Chine, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France. C'est un organe qui a été créé pendant la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, donc on a les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni, France d'un côté, et de l'autre côté, Chine, Russie. Et donc, ces membres sont en permanence opposés. On a forcément la Chine et la Russie qui s'opposent en permanence aux États-Unis, à la France, au Royaume-Uni. Sauf que chaque membre a un droit de veto illimité. Donc ça veut dire que quand le Conseil de sécurité, qui est en charge de la sécurité internationale, veut agir, si un des membres met son veto, il ne peut pas agir. C'est pour ça que la guerre en Russie, le Conseil de sécurité ne fait rien, parce que la Russie met en permanence son veto. La deuxième exception à l'interdiction du recours à la force, c'est effectivement la légitime défense quand un État est attaqué. Le recours à la légitime défense, il est très encadré. Et le premier critère, c'est qu'il faut une agression armée pour se défendre. Le narcotrafic aujourd'hui ne rentre pas, en tout cas d'après la doctrine, ne rentre pas dans ce champ de l'agression armée. Tout d'abord parce que le narcotrafic qui vient du Venezuela est extrêmement faible, et ensuite parce que c'est surtout des acteurs privés. Si jamais on arrive à relier le président vénézuélien au narcotrafic, ça ne rentre tout de même pas dans la division de l'agression armée. Là, on pourrait avoir un flou juridique sur cette question-là, parce que c'est une question qui n'est jamais invoquée, tellement ça paraît peu probable et peu plausible en droit. Mais on pourrait, à la limite, si on étend vraiment les définitions et les notions, pourquoi pas. Les deux autres critères de la légitime défense, donc c'est l'immédiateté et ensuite il y a la proportionnalité et la nécessité. Est-ce que le kidnapping du président est nécessaire à arrêter le narcotrafic ? Si jamais il fait partie d'un réseau entier, c'est pas forcément nécessaire parce qu'il faudrait s'attaquer au réseau entier et pas uniquement à la tête du réseau. D'autant plus que les raisons politiques ont été, même économiques, ont été explicitées après. On veut le pétrole du Venezuela. Donc en fait, on a tous les éléments ici pour dire que la légitime défense n'est pas l'argument principal.
Ok.
Mais alors, on s'imagine bien que c'est un peu comme si une nouvelle brèche avait été ouverte. Enfin, si, bon, après, c'est les États-Unis, d'accord, c'est évidemment une superpuissance mondiale. Mais ce comportement-là, d'après ce que vous dites, est-ce qu'il peut être initiateur d'autres comportements déviants par d'autres pays, par exemple ?
Je ne suis pas sûr que ce soit une brèche, parce que depuis la guerre froide, les États-Unis ont l'habitude de renverser des gouvernements. D'ailleurs, tous les pays un peu riches et puissants ont l'habitude de renverser des gouvernements, de mettre des gouvernements alliés à la place des anciens gouvernements. Donc finalement, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est à quel point c'est fait de manière flagrante, sans se cacher. C'est-à-dire que là, c'est assumé, on va kidnapper, sans l'accord du Congrès, le président vénézuélien. Donc c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des violations en droit états-unien aussi, en droit interne. Mais au niveau du droit international, on ne se cache pas. On vire le président. On met en place une procédure pénale nationale pour justifier un peu son enlèvement. Ça, en droit international, ça n'existe pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. Le droit pénal national est toujours en dessous du droit international. Toujours. Et donc, on met ça en place pour finalement justifier son enlèvement. Et puis après, on explicite vraiment le fait que les compagnies pétrolières états-uniennes vont aller au Venezuela pour prendre le pétrole, pour faire baisser le prix du pétrole au niveau mondial, pour assurer l'indépendance énergétique des États-Unis. Donc en fait, c'est un comportement qui est impérialiste, qui est colonialiste, mais explicite. C'est-à-dire qu'avant, les États-Unis renversaient un gouvernement pour avoir un pays allié dans la zone. Maintenant, ils renversent un gouvernement pour posséder le pays. Et il y a eu des menaces contre le Panama. On veut reprendre le contrôle du canal de Panama, qu'on a cédé au Panama, qui est quand même le territoire. Donc en termes d'autodétermination du peuple, c'est important. La Chine, maintenant, a des parts dans le canal du Panama, donc on veut reprendre le canal. Des menaces contre le Groenland. On veut prendre le Groenland parce qu'on en a besoin. Et donc, en fait, le danger, c'est que le comportement états-unien s'applique en fait à n'importe quel territoire que Trump veut. Et c'est un peu les interventions de notre président Macron, au forum de Davos, c'est de dire on ne peut pas laisser faire, parce qu'en fait, c'est dangereux, ce comportement.
Je rebondis là-dessus, parce que du point de vue du droit, c'est complètement condamnable. Mais il y a eu des réactions qui étaient assez étonnantes, enfin pas étonnantes, mais qui ont fait débat, on peut dire. C'est les Vénézuéliens eux-mêmes qui semblaient être en liesse quand leur chef d'État avait été kidnappé. Et certains disaient, enfin notamment, qu'il fallait prendre les faits tels qu'ils étaient et que ce gouvernement n'était pas l'idéal. Et en fait, on est partagé entre ce que le droit dit et au final ce qu'une autre étude pourrait dire. Je ne sais pas quel est au point de vue sur la situation, mais Maduro était vu comme un dictateur par la plupart des... Enfin, factuellement. Et même si ce n'est pas légal, est-ce qu'il y aurait vraiment une autre solution?
Alors, l'avantage du droit international, c'est que normalement, on ne s'intéresse pas au droit interne, à ce qui se passe en interne. Et c'est justement tout le principe de non-ingérence dans les affaires internes, c'est que ce qui se passe en interne reste en interne. Ce qui est dangereux avec ce raisonnement, et effectivement j'ai aussi vu tous les articles qui parlaient des Vénézuéliens en liesse dans les rues parce que c'était une libération pour eux, ou la diaspora à l'étranger qui se sentait libérée. Je pense que ce n'est pas à nous de décider si c'est bien ou pas pour le peuple vénézuélien, mais c'est au peuple vénézuélien de décider effectivement. Pour lui, si jamais il le vit bien ou mal. Et effectivement, je veux bien croire qu'en tant que Vénézuélien, si on considérait Maduro comme un président illégitime, c'est génial qu'il se fasse kidnapper. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui seraient contents que Macron se fasse kidnapper. Mais d'un point de vue droit international, on ne peut pas se permettre de dire « Ok, cette personne est un dictateur, on peut se permettre de le kidnapper. » Parce que ça veut dire dans ce cas-là qu'il suffit d'une affirmation politique, peu importe les faits, c'est ça le problème, c'est peu importe les faits, peu importe à quel point ils sont vérifiés, peu importe à quel point ils sont vérifiables, on considère que c'est le principe de la post-vérité. On considère que notre vérité, c'est la vérité, peu importe les faits, et donc on agit. Donc si demain, Donald Trump considère que Emmanuel Macron est un dictateur, il peut juste le kidnapper. Et peu importe si des personnes en interne sont contentes ou pas, on ne respecte pas le droit. Le droit, ce n'est pas uniquement quelque chose qui vient nous empêcher d'agir comme on veut, c'est un vrai cadre pour éviter les dérives et pour permettre la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du peuple. En fait, le droit, il est surtout au service du peuple. Et ça, en tant que peuple, on a tendance à parfois l'oublier en se disant « mais le droit, il est un peu chiant, même pour nous. Il nous contraint beaucoup. » Enfin, on tourne beaucoup ça en Europe, entre autres, cette sorte de blocage.
Privation de liberté, quoi.
C'est ça, cette sorte de blocage législatif où on nous empêche de vivre, en fait, par le droit. Mais à l'origine, le droit, c'est pour protéger le peuple. Toutes les grandes avancées sociales sont passées par le droit. Et le droit permet d'inscrire dans les textes, d'inscrire dans une réalité des barrières pour empêcher les puissants, on va dire, les entreprises, les États, les gouvernements, de ne pas respecter ce droit. Et donc là, pour le Venezuela, l'objectif du droit international, c'est de dire, c'est au Venezuela de gérer ça, parce que l'objectif des Nations Unies en 1945, c'est de décoloniser le monde. C'est le grand objectif des Nations Unies. Elle a en partie beaucoup réussi, cette organisation. Et donc l'objectif, c'est de dire chaque peuple est compétent. Donc c'est vraiment prendre le contre-pied de la colonisation, parce que la colonisation, le grand argument, c'était de dire les personnes natives ne sont pas capables de se gérer. Mm-hmm. Nous, en tant que puissance coloniale, on va pouvoir mieux les gérer. Et cet argument, il est revenu très souvent, même dans les périodes de décolonisation française. Non mais si on part, vous n'êtes rien, vous ne savez pas faire. Macron l'a rappelé lors d'une visite dans un de nos territoires.
À Mayotte.
C'est ça, à Mayotte. Il a vraiment dit explicitement, un peu énervé, que de toute façon, sans nous, ils n'étaient rien. Et donc, le fait du droit international, c'est de dire chaque peuple est compétent pour se gérer. Et donc, on les laisse se gérer et ce n'est pas à nous de décider. Et ce n'est sûrement pas à Trump de décider.
Alors, on est sur Radio Campus Paris et on continue la conversation. Mais avant ça, une petite pause musicale avec Speranza Galese, IBDL 4V. Et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Sur Radio Campus Paris, et c'était Speranza Galese. J'ai dit IBDL 4V, mais c'est sûrement IBDL 4V ou 4V, parce que c'est une artiste vénézuélienne, figurez-vous. Et on continue notre discussion sur justement le droit international.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et alors, on a encore des questions pour vous, on n'a pas fini de se questionner. Je ne sais pas si tu veux enchaîner.
Moi, c'est des questions, j'avoue, assez techniques sur le droit, parce que je suis une ancienne étudiante en droit, mais moi, je n'avais pas du tout étudié le droit international public, et du coup, j'avais essayé de un peu regarder mes cours, etc. Et même pour un public qui s'y intéresse. Donc d'abord, je vous pose cette question, mais histoire de ne pas être sûre, parce que c'est quand même votre spécialité. Et les États-Unis, j'avais cru comprendre qu'ils avaient fondé parfois ce type d'opération sur leurs compétences pénales extraterritoriales. Mais est-ce que, en droit international, jusqu'où un État peut-il étendre sa compétence? Et est-ce que c'est inclus aussi aux États-Unis? C'est pas le même droit, mais il me semble que c'est ce que j'avais vu.
Alors effectivement, les États-Unis ont toujours plein d'arguments pour intervenir. Et d'ailleurs, il y a une autre exception dont je n'ai pas parlé tout à l'heure sur l'intervention armée sur un autre territoire, que j'y reviendrai juste après. Le droit pénal états-unien, il n'a pas le droit de s'étendre au-delà du droit international. C'est l'avantage du droit international public, c'est que comme on ne s'intéresse pas aux affaires internes, on ne s'intéresse pas au droit interne. C'est-à-dire que peu importe le droit interne, et d'ailleurs peu importe les procédures électorales, peu importe le régime politique, et ça, la Cour internationale de justice l'a confirmé. C'est-à-dire que si c'est une république, si c'est une monarchie, si c'est une dictature, peu importe.
Ça n'influe pas.
Ça n'influe pas. C'est-à-dire que le régime politique de la Corée du Nord est égal au régime politique français, par exemple. Alors après, il y a des considérations de droits de l'homme qui vont rentrer, qu'on va prendre en considération. Mais en fait, chaque État est souverain. Donc c'est la grande notion à la mode en ce moment en France, en Europe. C'est la souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir sur toute chose. À tout instant sur le territoire. C'est-à-dire que chaque État décide ce qu'il peut faire sur son territoire. Et la charte, elle pose un principe qui est hyper important, c'est l'égalité souveraine. C'est-à-dire que chaque État est égal aux autres États, de par la souveraineté. Et donc les États-Unis, très gros pays, est égal en termes de souveraineté à la plus petite île perdue au milieu de l'océan, parce que c'est la souveraineté. Les États-Unis ont beaucoup de mal avec cette notion de souveraineté, la Russie a beaucoup de mal avec cette notion de souveraineté, et les pays coloniaux ont en général beaucoup de mal, parce que ça veut dire qu'on vient leur expliquer que bah non, ils ne peuvent pas coloniser les pays qu'ils veulent. Et donc c'est pour ça que la charte aujourd'hui elle est très importante, parce qu'elle met encore en place toutes ces barrières, et donc les États-Unis ont du mal à respecter ce droit et ont tendance à vouloir avoir un droit qu'on appelle extraterritorial, ce qui normalement n'est pas possible à cause justement de ce principe d'égalité souveraine. Les États-Unis ont surtout un droit extraterritorial parce qu'ils sont extrêmement puissants grâce à leur monnaie, le dollar. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges, dont sur les énergies, le pétrole, qui se passent en dollars. Et ils sont très forts en technologie. C'est-à-dire que grâce à leur technologie, ils peuvent finalement imposer leurs règles à des pays tiers. L'exemple que je prends souvent, c'est l'export contrôle, le contrôle des exportations. Donc, c'est des règles nationales qui réglementent l'exportation et l'importation de biens militaires et biens sensibles. Donc, par exemple, bien double usage. Un bien militaire, ça va être un fusil, c'est un bien militaire. Une machette, c'est un bien double usage. C'est utilisé à la fois pour l'agriculture et à la fois pour le militaire. Et donc, les États-Unis, ils ont un droit extraterritorial par rapport à ça. Ça veut dire que, imaginez un couteau qui est fabriqué aux États-Unis. Si jamais il est exporté en France...
Donc ça, c'est double usage.
Double usage. Okay. Si jamais il est exporté en France, la France, une fois qu'il a acheté ce couteau, pour le réexporter autre part, par exemple en Italie, la France doit avoir l'autorisation des États-Unis.
Ah, ok.
Si l'Italie ensuite veut réexporter son couteau, elle doit avoir l'autorisation des États-Unis. Comme ça, on ne voit pas forcément l'intérêt, mais je vais prendre un exemple de mon secteur, donc du spatial. Les Émirats Arabes Unis avaient construit un rover lunaire, ou martien même, pour l'envoyer sur Mars, avec beaucoup de composants américains, états-uniens.
Et après, donc ils voulaient l'envoyer... Satellite.
Un rover, pardon, c'est une sorte de petite voiture...
Ignorance. C'est comme dans le dessin animé, là... Le robot qui va sur Mars, non ?
C'est un peu comme Wall-E, par
exemple. Oui, c'est Wall-E, c'est ça.
Voilà, okay, c'est un peu comme ça. Et il y a plein d'instruments scientifiques dessus pour faire des trous dans Mars, pour étudier s'il y a de la vie et tout. Et donc, ils voulaient l'envoyer depuis une fusée chinoise en Chine. Et bien, ils n'ont pas pu. Parce que le droit états-unien s'appliquait à la relation commerciale entre Émirats Arabes Unis et Chine, à cause des composants états-uniens. Et si jamais les Émirats Arabes Unis auraient pu dire « on s'en fiche du droit états-unien, on exporte quand même vers la Chine », sauf que là, il y a des sanctions qui sont très fortes, donc il y a des listes noires, et après, les Émirats Arabes Unis n'auraient plus pu commercer avec les États-Unis. Et quand on s'appelle les États-Unis et qu'on a une production absolument incroyable de biens technologiques, des nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, de puces, etc., on ne peut pas se permettre d'être blacklisté. Donc en fait, ce sont tous les autres États du monde qui ont donné l'opportunité aux États-Unis en leur confiant la production, en leur donnant de l'argent, en leur permettant d'avoir ce niveau de développement commercial, technologique, monétaire. On leur a donné ce pouvoir d'avoir un droit extraterritorial. Mais sinon, en termes de pur droit international, ils n'ont pas le droit. Par rapport à l'exception que j'ai pas évoquée tout à l'heure sur l'utilisation de la force, on a une théorie, c'est une sorte de doctrine en droit international, c'est l'intervention pour protéger la population sur un territoire.
Là, c'est le principe d'intervention humanitaire.
Exactement. C'est ce que la Russie a utilisé pour intervenir dans les territoires contestés ukrainiens. En disant, il y a des ressortissants russes en Ukraine, on a besoin d'aller les sauver, donc on va les sauver, on intervient sur le territoire. Ce que Trump n'a pas du tout invoqué pour le Venezuela, finalement.
Oui, et puis on a vu, si je peux me permettre, que finalement, il n'y a aucune... Il n'y a rien qui a été pensé après l'enlèvement pour la population, que ce soit pour penser à une autre personne pour diriger le pays. Enfin, il n'y a pas eu de plan B, en fait.
Aucun plan B. Il y a eu
plan A,
il n'y a pas eu d'aide humanitaire qui a été emmenée au même moment. Et en plus, ça reste qu'une théorie. C'est-à-dire qu'on estime qu'en cas de génocide, par exemple, qui est un des crimes internationaux les plus importants, on va dire, dans l'échelle des crimes, on pourrait estimer que l'intervention humanitaire est légitime. Parce qu'on vient prévenir un des crimes qui peut pas se, enfin, qui peut pas se réparer. On vient prévenir un génocide. Mais dans le cas d'une dictature, d'un régime politique qui est illégitime, c'est pas vraiment de l'intervention humanitaire.
Mais justement, pour revenir à ce qu'on disait au début, ce sont ces violences graves qui permettent de faire donc tomber, selon eux, des immunités. C'est pour ça que les autres pays interviennent, si j'ai bien suivi. Et le narcotrafic ne serait pas suffisant, parce que je pense que c'est un petit peu l'argument phare, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'était peut-être pas vu comme étant suffisant.
le...
Pas assez nocif, tu veux dire, pour la population?
Pas assez grave, c'est ça?
En fait, vous avez dit qu'un État pouvait intervenir dans un autre quand il y avait des violences graves, je le dis en d'autres termes. Donc ça ferait peut-être, ça, en quelque sorte, ça ferait tomber les immunités de ce pays. Il se juge, comment dire, apte à, ou pas apte, mais c'est quoi le terme? Dans leur bon droit pour intervenir, voilà. Et c'est ce qu'avait dit Trump en disant, il y a du narcotrafic. Est-ce que c'est juridiquement solide comme position? Qu'est-ce que pourrait concrètement l'ancien chef d'État du Venezuela opposer à Trump ou au juge de New York quand on lui reproche ça?
Alors déjà, c'est qu'une théorie, l'intervention humanitaire. Donc c'est-à-dire que juridiquement, c'est absolument pas fondé. Et les États se basent parfois dessus, mais la France, par exemple, ne reconnaît pas cette théorie de l'intervention humanitaire. C'est la première chose. Ensuite, quand je parlais de génocide, par exemple, le génocide, c'est un crime qui est reconnu en droit international public. Ça veut dire qu'il y a une convention pour prévenir le crime de génocide et la Cour pénale internationale, la CPI, qui a pour rôle de poursuivre pénalement les chefs d'État et les plus hauts responsables des pays, donc les colonels, les ministres, etc. C'est la seule cour au niveau international qui a le pouvoir de poursuivre au niveau international, pénalement, les individus. En fait, il y a une distinction en droit international. Il y a l'État en tant que fiction juridique, la France par exemple, et après il y a les personnes qui dirigent la France, donc son président et les ministres. Et donc la Cour pénale internationale, elle s'intéresse aux actes personnels dans le cadre de leur fonction des personnes qui dirigent le pays. Donc la Cour pénale, elle reconnaît le génocide par exemple comme crime, et donc c'est pour ça qu'un État pourrait se baser sur ces crimes-là reconnus en droit international pour intervenir. Le narcotrafic, chaque droit national gère en fait sa propre notion du narcotrafic. Il y a des États qui autorisent certaines drogues, pas d'autres, donc ça peut être compliqué d'avoir une définition, une notion vraiment globale au niveau mondial. Donc c'est un crime qui paraît vraiment insuffisant. Il y a certains pays qui ne le reconnaissent même pas comme crime. Donc c'est un crime qui paraît, enfin une action qui paraît vraiment insuffisante pour violer le principe de non-ingérence, qui est lui un principe vraiment supérieur. On pourrait même appeler coutume internationale, voire jus cogens. Le jus cogens, c'est un des principes juridiques internationaux qui sont vraiment inviolables normalement. Il n'y a aucune exception pour ne pas les respecter. Donc le narcotrafic, ça ne suffit vraiment pas.
En sachant en plus qu'il y a eu, il y a un génocide qui est attesté actuellement et que les États-Unis n'ont pas joué cette carte-là. Donc peut-être que, je ne sais pas, on peut se dire que ce principe d'intervention humanitaire, soit il faut vraiment le prendre en compte pour cette situation-là, mais alors il est un peu à deux vitesses, soit il ne tient pas la route.
C'est le problème avec cette théorie, c'est que c'est une théorie. Donc chaque État décide, et il pourrait très bien, les États-Unis, décider qu'effectivement, dans ce cas-là, j'y vais pas. Et alors, dans le cas de tout le conflit israélo-palestinien, ils permettent même, ça va au-delà de la non-intervention. Ils ne font pas que ne pas intervenir, ils sont carrément complices. Hein. On le voit dans toute leur protection. Et d'ailleurs, en parlant de la CPI, donc des juges internationaux, on a carrément Donald Trump qui vient sanctionner les juges internationaux en leur interdisant, par exemple, l'utilisation de logiciels états-uniens. Donc, par exemple, le juge, le matin, il se réveille, il n'a plus de moyens de paiement, parce que la majorité, donc Visa, Mastercard, c'est états-unien. Donc, au niveau mondial, il ne peut plus payer. Il n'a plus Outlook, il n'a plus tous ses services états-uniens. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de droit extraterritorial, c'est aussi grâce à leur puissance technologique. En fait, ils peuvent nous couper les logiciels à n'importe quel moment. Et ça, en Europe, on est en train de s'en rendre compte. Je pense que dans cette salle, on a tous un moyen de paiement états-unien.
Non.
Ni Visa, ni Mastercard.
Ah, si, ok, si.
C'est ça. En fait, c'est des systèmes de paiement qui sont globalisés au niveau mondial. Et il suffit que vous faites quelque chose qui ne convienne pas à Donald Trump, il vous sanctionne, vous ne pouvez plus payer demain.
Alors, malheureusement, ça va être brutal, cruel, mais nous terminons cette interview de manière un peu brutale, je m'en excuse. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour discuter de ces questions.
Merci à vous.
Et merci pour votre éclairage. Et puis tout de suite, on se retrouve pour le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous. À retenir dans l'actualité de ce mercredi 21 janvier, côté justice, le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires de l'ex-Front National s'est poursuivi aujourd'hui avec l'audition de Marine Le Pen. La chef de file du RN a réfuté tout système généralisé de détournement de fonds européens au profit du FN. Alerte sanitaire, le groupe Lactalis rappelle en France 6 lots de lait infantile de la marque Picot pour un risque de diarrhée et de vomissement. Au total, 18 pays sont concernés par ce rappel. À l'international, le président américain Donald Trump s'est exprimé aujourd'hui au Forum économique de Davos en Suisse auprès des dirigeants européens où il a assuré qu'il ne comptait pas faire usage de la force pour acquérir le Groenland. En Espagne, un nouvel accident ferroviaire a eu lieu hier soir en Catalogne. Un train de banlieue a heurté des débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie. Bilan, au moins un mort et 37 blessés. Le pays reste encore marqué par la catastrophe ferroviaire de dimanche dernier près de Cordoue qui a fait au moins 42 morts. En football, le Paris Saint-Germain s'est incliné 2-1 hier soir sur la pelouse du Sporting Portugal lors de la phase de poule de Ligue des Champions. Le tenant du titre recevra les Anglais de Newcastle la semaine prochaine pour s'assurer une place directe en 8e de finale. Enfin, la météo, le temps prévu pour demain jeudi à Paris et en Ile-de-France. La journée devrait être majoritairement nuageuse avec un risque de pluie faible à modérée. Les températures, quant à elles, restent douces pour la saison avec des maximales allant de 11 et 13 degrés. Fin de ce flash, 19h31. Merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris avec la suite de votre matinale avec Farah et de toute son équipe. Très bonne soirée et à très bientôt.
Merci à toi Thierry pour ce flash info, ça fait trop plaisir de finir comme ça. Et alors nous, on continue cette émission, mais avant ça, une petite pause musicale avec Taking No Light, Pimoni, Jolie P pour Stay In Your Lane.
Cheeky bugger. Pack with a banger, ask about me, grind boy from the manor. Still full young and I got more to do, I got master yempo like Skeps and Jammer. I influenced you before you was an influencer, that's why the world used our grammar. In Europe, in Sydney, in Toronto, in New York, that's all in the planner. Tours every year, even when I don't drop, suitcase still pack up. We never lost and I'm still on the set, so a bedroom MC can still get had up. Man's not vain, but I can't listen to no one apart from the voice in my brain. They can give you my flow and chains, but they know this shit won't be the same. So stay in your lane, man don't care if the sound you're pushing ain't ours this year. Stay in your lane, too many man trying to do what I do, but they can't, it's clear. Stay in your lane, if you ain't passing a vibe check, don't ever come round here, round dubstep, or ground grind, 140, or P-Money. So stay in your lane, man don't care if the sound you're pushing ain't ours this year. Stay in your lane, too many man's trying to do what I do, but they can't, it's clear. Man's not vain, but I can't listen to no one apart from the voice of my brain. They can give you my flow and chains, but they know this shit won't be the same.
Facts. P-Money and Tyke, they cannot make this sound. AI can help, but it wants you, but still not be this loud. Jolie P in the cart, they're running our ting in the meetings now. On radio, in a warehouse, in parties, in public. I keep on telling them it's P-Money and Tyke, they cannot make this sound. AI can help, but it wants you, but still not be this loud. Jolie P in the cart, they're running our tings in the meetings now. They can give you my flow in chains, but they know this shit won't be the same.
Yeah, I do what I like, liquidate gas to overtake hype. Don't roll with overrated guys. Yeah, I'm in my own lane, that's right. See, can I find? Know about the culture, dance how I like. Haters are jealous, don't act in spite. Dead MCs never touch this mic. Phone blowing up, paying our on my line. But they don't even know me, more than a viral moment. I'm P to the Jolie, when I ain't seen, I show them. Can't pin me down, I'm straight, brother, this ain't bowling. I work hard cause I wanna go far and it won't work out if you sit there moaning. I write with love how I use my letters. Speak freely, don't care if they let us. Call us up, there's no one better. Full-time, not part-time trendsetter. So stay in your lane, cause we don't even want you, don't even need you. See, now you're five too lame, cause you can never ride this wave. P-Money and Tyke, they cannot make this sound. With Jolie P on the mic, we really get this loud. Our time has come, they're running our ting in the meetings now. On radio, in warehouse, in parties, in public. It's P-Money and Tyke, they cannot make this sound. With Jolie P on the mic, we really get this loud. Our time has come, they're running our ting in the meetings now.
In radio, in a warehouse, in parties, in public. So stay in your lane.
Stay in your lane, c'était avec Taking No Light, P-Money, Jolie P. Je me suis bien ambiancée, merci. Et alors tout de suite, on a notre interview culture, notre Zoom. On reçoit la metteuse en scène Tatiana Razafindrakoto pour la première création de la compagnie théâtre 84, Les Voix de l'Armoire. Et c'est au micro de Grégory.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Tatiana, bonsoir.
Bonsoir.
Donc j'ai vu qu'en plus de toutes ces casquettes de comédienne, autrice et metteuse en scène, vous définissiez aussi comme alien. C'était pour la blague ou on doit s'inquiéter d'une possible invasion extraterrestre ?
Non, c'est pas une blague et c'est pas une invasion non plus. En fait, Alien, ça fait référence à une association féministe et culturelle que j'ai créée en 2016, donc ça fait 10 ans, tout pile, qui s'appelle l'association Les Aliens, dont j'ai été la présidente pendant plusieurs années et dont je suis toujours membre aujourd'hui.
Ok, bon, très bien, effectivement. C'est une bonne invasion, si ça l'est.
Exactement.
Donc vous êtes là aujourd'hui pour la pièce Les Voix de l'Armoire, qui se joue actuellement au Théâtre 12 à Paris. Donc Les Voix de l'Armoire, c'est l'histoire de Francesco, qui après le décès de son oncle revient à Latiano en Italie pour ranger la maison. Et alors qu'il trie les affaires, il se retrouve totalement immergé dans le passé de cet oncle, atteint de schizophrénie et qui avait une particularité. Il parlait à ses vêtements.
Oui, c'est ça, exactement.
Ok.
Tatiana, vous n'êtes que metteuse en scène sur ce projet, et c'est déjà beaucoup. Alors comment vous vous êtes retrouvée avec cette histoire entre les mains ?
Eh ben, en fait, tout simplement, Francesco Calavita, donc l'auteur du spectacle, est venu me trouver quand il a fini sa pièce et il m'a demandé si j'acceptais de la mettre en scène. Je l'ai lu et j'ai dit oui parce que j'ai été très très touchée par le personnage d'Antonio. Et puis j'avais aussi à cœur de raconter, de porter au plateau une histoire qui se passait dans un milieu plus populaire qui allait raconter aussi des histoires qu'on raconte encore trop peu. Donc voilà, j'ai été très vite séduite et je me suis dit ok, allez, on se lance dans l'aventure.
Trop bien. C'est une pièce qui traite entre autres de santé mentale. Donc, rappelons qu'en 2025, le gouvernement en a fait sa grande cause nationale. Est-ce que c'est ce projet qui vous a donné l'envie d'en parler ou alors vous aviez déjà une appétence particulière pour le sujet ?
J'avais déjà une appétence particulière sur le sujet, premièrement en tant que personne concernée, puis aussi en tant qu'artiste. Moi, j'ai déjà travaillé sur le sujet de la santé mentale, notamment auprès des jeunes avec du Théâtre Forum. Donc dans les collèges, dans les lycées, avec une autre compagnie, on a monté un spectacle qui parle d'anxiété. Et on va comme ça à la rencontre des jeunes pour leur permettre de se saisir du sujet. Donc c'est un sujet qui est très très important pour moi et je suis assez heureuse qu'aujourd'hui on puisse en parler sans tabou et sans se sentir stigmatisée, en tout cas moins qu'avant.
Ok, ils vous en disaient quoi les jeunes avec qui vous allez travailler ?
Alors c'est marrant parce que au départ tout le monde se dit en très bonne santé mentale. Reconnaître, là je parle de collégiens et collégiennes qui ont autour de 13-14 ans.
C'est étonnant ça je trouve.
Ah bah en fait le truc c'est que ils ne vont pas très bien mais
ils se disent très bien.
Mais eux, ils disent qu'ils vont très bien.
Ça m'étonne.
Parce que, alors après, c'est pas une étude scientifique. Hein. Là, je parle vraiment d'une expérience avec quelques classes. Mais en fait, c'est difficile pour eux de mettre des mots sur leurs difficultés. Donc, ça va venir au fur et à mesure des séances qu'on passe avec eux. Mais en fait, c'est difficile d'admettre la vulnérabilité. C'est vraiment un moment de vie où on n'a pas envie de se sentir fragile. Donc, dire qu'on va mal, c'est admettre qu'on est fragile et c'est se mettre dans une position de très grande vulnérabilité. Donc, nous, en fait, ce qu'on recrée avec eux, c'est la possibilité de dire « je suis vulnérable à ce moment ». Je peux ne pas le rester toute ma vie, mais pour ne pas le rester toute ma vie, j'ai sans doute besoin qu'on m'aide, j'ai sans doute besoin de ressources et j'ai sans doute besoin de trouver les bons mots pour en parler.
Et du coup, par la force des choses, vous avez senti que le théâtre en était une bonne ressource pour ça, ça les a aidés, vous avez senti
Oui, bah ça crée énormément d'empathie en fait. Et puis parce qu'on projette sur des personnages de fiction des problématiques qui sont proches d'elles et eux, on leur permet d'en parler sans forcément se mouiller, c'est-à-dire sans dire « je », mais en disant « elle », là en l'occurrence c'est un personnage féminin, « elle a l'air comme ça, elle a l'air de ressentir telles émotions ». Et en fait, après, on est plus libre de parler de soi-même si d'abord on a... C'est assez cathartique en fait, tout simplement.
Ouais. Et vous trouvez que l'État, le gouvernement, met des choses suffisamment en place ?
Non.
À ce niveau-là ? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Vous avez des idées par rapport à ça ?
Moi, non, hein, parce que je suis vraiment à ma place d'artiste et de citoyenne, donc je ne suis pas du tout une économiste, je ne connais pas, je ne comprends pas, en fait, hein, les budgets, etc. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il suffit de discuter avec quelques professionnels de la santé pour savoir qu'il y a une grande souffrance dans la profession. La psychiatrie, par exemple, c'est le parent pauvre de la médecine. Il y a de moins en moins de psychiatres, donc forcément de plus en plus de maltraitance. Et l'accès aux soins, il est de plus en plus difficile. Donc dans ce cas-là, comment on peut dire qu'on a investi sur le territoire du soin ou de la santé mentale.
C'est vrai. Et est-ce que du coup, en 2025-2026, même si je pense que vous avez commencé à travailler sur ce projet bien avant, est-ce que c'est plus facile de monter une pièce sur la santé mentale ou pas vraiment? Donc ça a été quoi le parcours de création pour en arriver là?
Oui, je crois que c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a moins de tabous. On a quand même envie d'en parler. Et puis, ça fait partie des politiques publiques. Alors, comme le terme santé mentale circule, si on l'utilise, il y a quelques portes qui peuvent un petit peu s'ouvrir. Je dis bien un petit peu. Mais je dirais que c'est plus facile aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire qu'on a plus de moyens pour le faire.
Donc là, ça s'est passé comment quand vous avez eu le projet? Ensuite, c'est quoi? Vous allez chercher de l'argent? Vous allez trouver des aides, justement?
On essaye. Après, nous, on est une très jeune compagnie. C'est la première production de la compagnie. C'est aussi mon premier spectacle professionnel. Donc, très clairement, aller chercher de l'argent, c'est très, très limité. Mais oui, on essaye quand même de rassembler de l'argent. On essaye de trouver des lieux partenaires pour pouvoir répéter dans des bonnes conditions. Et puis, surtout, on s'entoure d'une équipe artistique formidable. Ça, c'est un peu la base. Et moi, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe artistique et technique vraiment incroyable. Et après, on essaye de rêver un projet qui donne envie aux gens de venir et de se laisser raconter cette histoire.
Cette équipe technique, c'était des gens que vous connaissiez avant ou que vous avez rencontrés pour le projet?
Un mélange des deux. Les comédiens et les comédiennes, je les connaissais toutes et tous. On avait déjà travaillé ensemble, donc il y avait déjà beaucoup de confiance entre nous. Et puis après, côté technique et côté composition musicale, costume, scénographie, c'est un mélange d'annonces qui ont été passées et puis de bouche à oreille aussi. La costumière, l'auteur l'a rencontrée, je crois que c'était dans un bar ou sur le Pont des Arts un soir. Il parlait de la pièce au téléphone avec moi et quand il l'a raccroché, elle a dit « Ah, au fait, je suis costumière, j'ai entendu ce que tu dis, moi ça m'intéresse ». Et en fait, elle est géniale et donc on a travaillé ensemble.
Donc ça fait des belles rencontres. Et ouais. C'était des gens qui étaient principalement amateurs aussi à la base et qui sont devenus professionnels via ce projet ou c'était déjà tous des professionnels du théâtre?
Non, là c'est que des professionnels. Okay. Et moi je suis aussi professionnelle, mais c'était mon premier spectacle de metteuse en scène.
Ok, je vois.
Justement, moi je me demandais, en tant que metteuse en scène à cette place-là, comment on met la sensorialité au devant de la scène? Parce que tout ce qui est schizophrénie, il y a une histoire d'écoute. Et là, en l'occurrence, c'est un petit garçon qui écoute, ses vêtements lui parlent. Oui. Comment on arrive à mettre ça en scène?
Bah, alors là, le texte était déjà un beau cadeau pour ça, puisque donc il entend parler ses vêtements, donc les vêtements sont des vrais personnages qui ont des dialogues avec le personnage d'Antonio. Donc la vraie question, ça a été comment on va les représenter. Et c'est là qu'avec la costumière, on s'est dit qu'on voulait vraiment pas quelque chose de réaliste. Donc ce sont des drapés en fait. Et ce sont des drapés qui évoluent tout au long de la scène et au long de la vie d'Antonio. C'est-à-dire qu'au tout début, quand il est enfant, quand ses voix sont présentes mais ne sont pas encore ni violentes ni menaçantes, c'est simplement une perception différente du monde. Le drapé, il est tout petit, il est là, mais on le voit à peine. Puis au fur et à mesure, parce que malheureusement, il vit dans un contexte extrêmement violent qui va accentuer ses troubles et parce qu'il ne reçoit pas le soin nécessaire, ses troubles vont donc s'aggraver. Et là, les drapés vont devenir de plus en plus grands, impressionnants et menaçants.
Okay. Et vous avez pu faire exactement techniquement tout ce que vous aviez en tête? Vous vous êtes adapté, il y a eu des contraintes qui ont fait que...
Ah bah la contrainte budgétaire a été très importante, on s'en est arrangé, mais je crois qu'on a fait beaucoup de promesses avec ce spectacle, c'est-à-dire que les costumes sont déjà très très beaux et c'est déjà une belle promesse. Si on avait eu plusieurs milliers d'euros en plus, ça aurait été complètement incroyable, mais là c'est déjà... Je trouve que c'est déjà très réussi. Et puis, il y a eu beaucoup d'amour dans la création de tous les endroits du spectacle.
Très bien. Et comment vous avez travaillé avec les comédiens? Parce qu'ils jouent plusieurs personnages, plusieurs rôles.
Oui, tout à fait. Eh ben, on a vraiment travaillé déjà en début de répétition. Nous, on fait toujours des exercices pour de corps, de respiration, de voix, pour essayer de trouver justement tous ces différents personnages. Et puis après, ça a été beaucoup, beaucoup de faire et de refaire pour créer le corps de tel personnage, puis le corps d'un autre personnage. Les drapés des vêtements aident beaucoup. Parce que quand les comédiennes, c'est beaucoup les comédiennes qui jouent les drapés, quand elles sont drapées, forcément, le corps est différent. Par exemple, on a un personnage de la veste en cuir qui est entièrement drapé, on ne voit pas du tout son visage, tout en noir, et la seule chose qui joue, c'est sa main. Comme c'est un personnage très manipulateur, et donc on ne voit que cette main blanche, en l'occurrence, qui se détache du drapé noir et du fond noir du théâtre, et ça donne quelque chose de très fort, et on ne voit jamais la comédienne, c'est juste sa voix et sa main.
Oui, c'est vraiment proche de la marionnette, hein, quelque part.
Oui, il y a vraiment une inspiration marionnette et théâtre d'objet.
Ok.
Alors, Les Voix de l'Armoire, ça se passe au Théâtre 12 jusqu'au 25 janvier. Donc, vous avez encore un petit peu le temps pour aller le voir. Et puis, nous, on continue l'émission avec...
C'est déjà fini. Mais non, il faut faire une spéciale,
mais
Tatiana.
C'est incroyable. Il faudra revenir. Et on continue avec la chronique de Paul Augustin. C'est tout de suite après ça.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Bonsoir à tous. Je vais vous parler de santé mentale aussi, mais des étudiants en infirmier, parce que la situation est grave et urgente. C'est ce que nous alerte Damien Sarmeno, le président de la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Et cette situation, elle concerne près de 100 000 étudiants en IFSI pour la rentrée 2026. Les IFSI, ce sont les instituts de formation en soins infirmiers. Alors Damien, il tire la sonnette d'alarme sur un blocage institutionnel qui dure depuis maintenant 3 ans. Concernant un projet de décret qui n'a toujours pas été publié et qui permettrait pourtant de revoir et d'améliorer drastiquement les conditions d'apprentissage. Mais alors que prévoit cette réforme si jamais le texte est publié? Encore-t-il qu'il faut qu'il soit appliqué, mais ça c'est une autre histoire. Et il y aura donc dans cette réforme une évaluation systématique des lieux de stage, la mise en place d'un agrément pour éviter les situations de maltraitance, jusqu'à 6 semaines de simulation pour mieux préparer les étudiants au terrain, et enfin une révision annuelle des maquettes pédagogiques pour coller aux besoins réels des étudiants. En fin de compte, ce décret, il prévoit des mesures cohérentes pour réparer la santé mentale des jeunes étudiants infirmiers qui sont bien trop fragilisés par ces conditions de formation. Mais alors pourquoi un tel blocage? Parce que contrairement aux autres formations de santé comme médecine et pharma qui dépendent du ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur et donc de l'État, les instituts de formation en soins infirmiers sont eux sous la responsabilité financière des régions depuis 2004. Et concrètement, ça donne des bourses régionales inégalitaires avec des versements toujours en retard et une précarité qui flingue la formation de l'intérieur. Alors le calcul, il est simple à faire. Ce sont 7 500 € par région pour un étudiant en IFSI, alors que l'État débourse en moyenne 12 500 € pour un étudiant à la fac. Ça fait 5 000 € de différence. Alors pour réduire cet écart, l'État avait lancé un gros chantier de réforme en octobre 2023. Les textes devaient arriver avant Noël 2025, sous le sapin des étudiants, sauf que ce sont les régions qui bloquent la publication de ces textes, puisqu'elles refusent tout accord pour renégocier leurs enveloppes financières. Et cette situation, elle est vraiment inquiétante, parce que plus le décret tarde à être publié, moins les universités et les instituts de formation auront du temps pour adapter leurs conditions d'apprentissage. En attendant, les étudiants continuent de subir des stages précaires, sans préparation ni accompagnement par leurs écoles. Et pour que vous visualisiez bien quand même, ces étudiants, lorsqu'ils entrent dans cette formation, ils ont plus d'1 an de stage à faire sur les 3 ans réglementaires avant d'obtenir leur diplôme d'infirmier. Et ces stages, ils sont très loin et ils sont parfois vécus dans des conditions difficiles pour des jeunes bacheliers. C'est par exemple le cas de Corentin Lamour, qui est étudiant en 2e année en IFSI à Brest, où il explique que lors de son premier stage en 1re année dans un cabinet d'infirmier libéral, il rend visite seul à un patient et se retrouve devant un homme presque nu en train de prendre de la cocaïne à 8h du matin à 18 ans. Il explique avoir été profondément choqué et se retrouve exposé à des scènes de drogue comme ça dans un cadre professionnel. Il ne savait absolument pas comment réagir. Et il témoigne aussi du fait qu'aucun véritable dispositif n'est prévu pour les aider à y faire face. Il explique qu'il n'existe pas de réelle cellule d'encadrement pour les étudiants, ni de suivi psychologique adapté, alors même qu'ils sont confrontés parfois à des scènes traumatisantes. Il explique aussi s'être senti davantage soutenu par les infirmières et les infirmiers sur le terrain, qui ont pris du temps pour l'écouter, mais pas son institut de formation, qui, selon lui, l'accompagnement reste très limité. Il témoigne ensuite, en pointant du doigt, un gros paradoxe de ce type de formation, en déclarant: on nous forme à prendre soin des autres, mais on oublie de prendre soin des étudiants infirmiers. Alors la rentrée 2026, c'est dans 8 mois, mais si rien ne change maintenant, ce sera trop tard pour ces étudiants et ces étudiantes en institut de soins infirmiers.
Le coup de gueule est donné, Paul Augustin, et nous, on continue l'émission, mais encore une petite pause musicale avec Wack Wack Kingdom, Mom Tells Me. Thank you. c'était Mums Tells Me de Wakwa Kingdom. Et après ce coup de gueule de Paul Augustin, on va terminer avec un peu de douceur avec la chronique de Violette qui nous parle du goût des autres.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Dans un article publié il y a deux jours sur Le Monde, l'écrivain David Foenkinos explique « Je tiens à transmettre à mes enfants le goût des autres ». Vaste entreprise, diriez-vous. Ambition démesurée. Alors, détrompez-vous, si vous pensez que je ferai ce soir l'apanage d'un altruisme de façade, de bonne conduite ou de bons sentiments. Non, il s'agit ici d'enlever les masques, de transgresser les frontières établies par les écrans. Remontons dans le temps et l'espace, à la racine des mots, pour en dévoiler les mille nuances. Goût vient du latin gustus, qui signifie l'action de déguster, la saveur, mais également l'impression, la sensation que l'on a par avance. Entre autres, ce que nous pourrions aujourd'hui appeler intuition. Une intuition est ce que l'on peut observer et sentir lorsque l'on porte les yeux sur quelque chose, ce qui exprime le verbe intuer en latin, regarder attentivement. Autre, quant à lui, peut être exprimé de deux manières en latin, alter, qui signifie l'autre, en tant qu'il est opposable à un seul individu, ou à ce que je suis en train de désigner, et aius, qui se rapporte à ce qui est autre parmi une multitude. L'autre est protéiforme, il est celui que l'on veut aider par altruisme, mais c'est également celui qui catalyse une dissidence, un trouble, d'où le mot alien ou aliénation. Alors, en parlant du goût des autres, David Foenkinos ne semble pas forcément convier l'idée d'un amour du prochain, indéniable, universel et forcé. Plutôt l'inverse, à vrai dire. Selon moi, avoir le goût des autres, c'est sentir, reconnaître une saveur particulière, c'est avoir l'intuition de devoir rester discret quand il le faut, de ne pas détourner le regard, de voir juste les qualités, mais surtout les travers. Avoir le goût des autres, c'est prendre le soin de ne pas confondre conflit et désaccord, et accepter le désaccord. Alors, je pense à mon frère, qui lui ne laisse jamais personne avoir le dernier mot à sa place. Je pense à ma mère, grande fanatique d'Idiorythmie, et à mon père, tout le contraire de ma mère, qui nous ont transmis malgré tout cette curiosité. Je pense à tous ces romans, ces lectures, qui ne forment qu'un, ce seuil fatidique et intimidant, la première porte d'entrée vers un monde de tolérance, voire pire, un monde de contradictions. Comment aimer Lucien de Rubempré, être épris d'une étrange fascination pour la marquise de Merteuil, en même temps que de pleurer le père Goriot ou Charles Bovary, pour n'en citer qu'une infime partie. Comment ne pas immédiatement penser, en parlant du goût des autres, au chef-d'œuvre cinématographique d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, qui nous fait comprendre que la partie n'est rien sans le tout, qu'une mélodie ne prend sens qu'au moment où l'orchestre, aussi petit ou vulnérable soit-il, est au complet.
Merci Violette. Oui, mais on applaudit, je suis d'accord. On applaudit à la Réal, ça applaudit, le public applaudit, tout le monde applaudit. J'avais envie de chialer. Merci, merci Violette. Et puis nous, la matinale de 19h, elle se finit ici. Merci à vous, très chers auditoristes, pour votre écoute. Merci à nos invités du soir, Quentin Guéot et Tatiana Razafindrakoto. Merci à Jeanne, à Thierry, à Paul Augustin et à Violette d'avoir fait vivre cette émission. Merci à Joey, à la Réal. Merci au binôme de Choc, au Dégène, à la coordination. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle matinale de 19h. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.